commence à la page 31 à 5. La Gemara, elle parlait ici de toutes sortes de cas dans la Torah dans lequel il y a un mot qui a été dit en double. Par exemple, d'accord, on avait amené pour le cas de rendre une trouvaille, on avait dit achève tes shivem, rends, tu devras les rendre. Donc c'est un terme qui avait été dit en double. Pareil, on avait expliqué par rapport à la méthode de Shiluah Haken, de renvoyer donc de la mère pour prendre les enfants, on avait dit Shalear Teshalar. Donc chaque fois on a des termes comme ça qui sont doubles. Et chaque fois la Gemara nous a montré comment il y avait quelque chose à apprendre. Comment il y avait quelque chose à apprendre du fait que c'est une phrase qui était dite en double. Donc chalet renvoyé, tu renverras, rendre, tu devras rendre, etc. Donc là on va continuer toujours dans le même style. On va parler aujourd'hui de la mitzvah de Azov ta Azov Imo. D'accord? Azov ta Azov Imo, donc on est à la page 31 à 5 ici. Le verset il nous dit que si on va voir l'âne de son ennemi qui est en train de crouler sous sa charge, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que tu n'auras pas le droit de ne rien faire, mais Azov ta Azov Imo, tu devras l'aider. Donc encore une fois, dans ce pasouk-là, le pasouk s'est exprimé dans un terme double, puisqu'il a dit Azov ta Azov Imo. Ça veut dire aider, tu devras l'aider. Donc, la même question, dans le même style que les questions que la Gemara a posées plus tôt, pourquoi me répéter en double? Pourquoi ne pas dire simplement tu l'aideras? C'est quoi ce langage aider, tu devras l'aider? Alors dit la Gemara la chose suivante. Que pourquoi on dit pourquoi on répète doublement? C'est pour t'apprendre un chidouche, pour t'apprendre une nouveauté. Enli, je n'aurais pu penser que j'ai l'obligation de l'aider à relever donc son âne, seulement si le propriétaire est là. Mais en, balavimo, mais si le propriétaire n'est pas là, donc il peut pas l'aider. Minaïn, d'où je sais que j'ai l'obligation de l'aider. Talmud Lomar, c'est ce qu'il vient d'apprendre. Azov, t'azov, mikol makom. Que quoi qu'il en soit, il faut l'aider. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui est en train de crouler sous sa charge. Ça dit le pasouk. Qu'est-ce que dit la mitzvah de la Torah? Tu n'auras pas le droit de l'ignorer, tu devras l'aider. Azov, t'azov, mikol. Pourquoi tu répètes en double? Tu dis aider, tu devras l'aider. Eh bien, quelque chose que tu veux m'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? La Gemara dit, voilà ce que je veux t'apprendre. Ce que je veux t'apprendre, c'est que j'aurais pu penser que j'ai l'obligation d'aider l'âne de mon ami à se relever, de mon ennemi, seulement si le propriétaire est là, si l'ennemi est là. C'est style pour lui montrer, voilà, bon, je t'aime pas, mais je t'aide quand même, tu vois, je te laisse pas en plan. Mais s'il est pas là, c'est son employé qui est là.
Il va me tirer dessus.
D'accord? Voleur, tu veux me voler mon âne?
Si maintenant, il est pas là.
Tu achèves l'âne.
D'accord? S'il est pas là, il y a que son employé qui est là et que je vois que l'âne il s'écroule. Voilà, je vois sa voiture, elle est en panne. Hein? Qu'est-ce que vous dites là dans ce cas-là? Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider? Non. Alors j'aurais pu penser que non.
L'employé, c'est le représentant du patron.
Oui, mais j'aurais pu penser que pourquoi la Torah me dit de l'aider? C'est parce que comme c'est ton ennemi, enfin c'est quelqu'un que tu aimes pas. Donc, tu vas l'aider, tu vas lui montrer, tu vois, moi je t'aide, ouais. Fais le shalom, tu vois. Mais s'il est pas là, il est même pas là, tu vas rien gagner, c'est-à-dire que peut-être qu'il saura même pas qu'on l'a aidé. Peut-être que l'employé, il aura peur de raconter à son maître que ton ennemi m'a aidé, il m'a aidé à lever.
Tu peux le virer.
J'aurais pu penser, d'accord, que j'ai pas besoin dans ce cas-là, que je me tais, je fais rien. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah te dit, Azov ta Azov, aider tu aideras. Pour dire quoi? Nicole Macom, c'est-à-dire dans tous les cas, aider, tu aideras. Pourquoi je répète deux fois le terme aider? C'est pour te dire qu'il faut toujours essayer d'aider. Même si tu as des raisons dans la tête qui te viennent que tu ne devrais pas aider. Azov, ta Azov, moi, tu veux toujours proposer ton aide pour aider l'animal à se relever.
Je répète toujours cette question. Pourquoi c'est toujours un langage codé? Pourquoi la phrase, elle ne fait pas comprendre que dans tous les cas, il faut aider?
C'est comme ça la Torah.
Non, mais c'est quoi qu'on donne comme réponse?
C'est un logiciel surconcentré,
c'est comme ça,
pour le déployer.
À l'époque où la Torah était donnée,
une phrase, je vais faire comprendre ce que vous dites là.
Ça c'est la descente des générations. Yeridat Adoran. À l'époque, quand Moshe Rabbeinu il a donné la Torah, lorsqu'il a dit ça au peuple d'Israël, c'était clair, ils ont compris tout de suite. Il n'y a pas besoin de leur expliquer. Mais avec le temps après, on a eu besoin petit à petit de la Mishnah. Après, on a eu besoin de la Gemara. Après, on a eu besoin des commentaires sur la Gemara. Après, on a eu besoin des commentaires sur les commentaires de la Gemara. Après, on a eu besoin d'un Shulchan Aruch. Pour nous donner les conclusions des commentaires de la Gemara. Et plus on avance, d'accord, après on a fait le Kitsur Shulchan Aruch. Après il y a eu le décisionnaire. Après on a fait le résumé du Shulchan Aruch. Maintenant on fait des commentaires sur le Kitsur Shulchan Aruch. Et plus on va avancer, plus ça va descendre. Ça s'arrêtera jamais. C'est la descente générationnelle.
J'ai oublié au moins deux, le Rambam au passage et le Chafetz Chaim au milieu.
J'ai pas oublié le Rambam, parce que le Rambam c'est la base du Shulchan Aruch. Pas oublié le Rambam. D'accord ? Le Rambam c'est le concept, c'est de faire de codifier les lois, on n'avait pas besoin à l'époque, c'était clair, j'ai étudié la Gemara, je connaissais la Halakha. Aujourd'hui, nous on voit, on est bloqué. On n'arrive pas à faire la Halakha de ça. C'est la descente de génération. Dans les mots de la Gemara. Vela Mali le Mirtaf Prika. Non, pardon. Akem Takim Imo. Maintenant, on va parler d'un autre verset. Il y a un verset qui parle, qui dit la chose suivante. Il dit, tu n'auras pas le droit de voir l'âne de ton frère. D'accord ? L'âne de ton frère. Ou bien son taureau. Noflim Baderer, qui sont en train de... Noflim Baderer, ça veut dire qu'ils sont en train de... Donc, ils sont tombés sur la route. Veitalam Tamem. Donc le verset, il dit, tu n'as pas le droit de voir l'âne de ton frère ou son taureau, qui sont tombés dans la route, et tu les ignores. Donc c'est quoi la différence avec le cas d'avant ? C'est qu'avant, on parlait de mon ennemi, qui croule sous sa charge. Là, on parle d'un deuxième cas. Là, on parle de l'âne qui est tombé par terre.
C'est pas si c'est l'ennemi ou deux personnes.
Non, c'est le dit de ton frère. Tu ne fais pas la différence de ton ennemi ou pas ennemi. Et là, qu'est-ce qu'on te dit ? Le verset te dit « Akem takim imo ». Tu devras l'aider à relever son âne. On va dire l'exemple moderne d'aujourd'hui, ça aurait été quoi ?
Il est en panne.
Il est en panne, il faut pousser sa voiture avec lui. D'accord, on est d'accord ? Il est en panne. On l'a dit comme ça.
Si c'est ton frère, ou n'importe qui.
Ah, pour le verset, c'est ton frère. D'accord ? Mais il y a la même question qui revient. C'est que tu me dis, Akem Tekim Imo. Tu me dis, lever, tu devras le lever avec lui. Pourquoi tu me dis lever, tu devras lever avec lui ? Pourquoi c'est propre en doux ? Pourquoi tu dis pas tout simplement, il faudra l'aider à lever, c'est tout ? Pourquoi c'est quoi ce langage Akem Takim Imo ? Alors nous dit la Mishnah, c'est pour nous apprendre que En li Ela Be'alav Imo. J'aurais pu penser que l'obligation est seulement si son propriétaire est là. Que dans quel cas j'ai l'obligation de l'aider, par exemple, de pousser la voiture avec quelqu'un ? C'est seulement si Be'alav Imo. Seulement si le propriétaire est là. Mais si le propriétaire n'est même pas là, son employé qui travaille, j'ai attends, lui il est pas là, il ne dérange pas, moi je me dérange à sa place. Il n'a qu'à venir. D'accord ? Est-ce que j'aurais pu penser comme ça, oui ou non ?
Non, c'est pas
le. Je me dis, attends, il est lui. Qu'est-ce que tu me veux à moi ? Moi déjà je veux me fatiguer. Je vais déplacer. Il a qu'à travailler, il a qu'à venir lui travailler. Alors il dit, elle est la Béa Lavimo. Je n'aurais pu penser que l'obligation est seulement Béa Lavimo quand son propriétaire est avec lui. C'est-à-dire si le propriétaire est là. Mais en bah la vimo, mais si le propriétaire n'est pas là, hein, et que de toutes les façons je me dis, pourquoi tu veux que je me casse les pieds à aller l'aider, alors que lui il aurait pu être là pour aider son employé à le faire. Pourquoi tu me casses les pieds? D'accord? Minaïn du je sais, Talmud Lomar, c'est ce que le verset vient t'apprendre, Akem Taki Mikol Makom. C'est pour ça que le verset vient t'apprendre, il te dit Akem Taki Mikol Makom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il en soit, Akem Takim, ça veut dire lever, tu devras le lever, prends, je répète deux fois. Pour te dire que quoi qu'il en soit, il faut toujours essayer de faire tout ton possible pour l'aider à se relever. Donc c'est le même style que la question de la Gemara d'avant. Maintenant, la Gemara pose une question très simple. Elle dit « La malil mirtaf prika, vela la malil mirtaf teina ». Je crois que cette partie-là, on l'a déjà fait. Hein, avant. Enfin, je sais que je vais faire hasard, mais... Donc, la Gemara pose la question suivante, elle dit « Mais pourquoi on a besoin d'enseigner prika et pourquoi on a besoin d'enseigner teina ?» Les deux cas que je viens de dire, c'est quoi ? Le premier cas, c'était quoi ? Allez, on va voir si vous vous rappelez. On vient d'enseigner deux cas. Premier cas, c'était quoi ? L'âne de l'ennemi qui est en train
de crouler
sous sa charge. Très bien. Et le deuxième cas, c'était quoi ? C'est l'âne
qui croule.
Qui est tombé. Tombé.
Donc c'est le même principe.
D'accord ? Donc c'est le même principe. Pourquoi la Torah a besoin de répéter deux versets ? Ok, tu m'as dit que dans chaque verset, pourquoi on a répété le mot lever en double ? C'est pour t'apprendre que dans tous les cas, il faut essayer de l'aider, même s'il n'est pas là, etc. Même si le propriétaire n'est pas là. Tu dis, oui, bah il a qu'à être là, moi je ne vais pas travailler à sa place. D'accord. Mais tu ne réponds toujours pas à la question, pourquoi on a parlé de, a priori, ces deux cas sont les mêmes. Que l'âne, il croule sous sa charge. Ou que l'âne, il est tombé tout court. A priori, c'est la même chose, c'est le même concept. Il faut l'aider à se relever, c'est tout. Pourquoi j'ai besoin d'avoir deux versets dans la Torah ? D'accord ? Un verset dans Shemot et un verset dans Devarim.
Mais c'est même pas les mêmes, en
fait. C'est pas du tout les mêmes versets, non.
Ouais, hein, il faut aider, l'autre il faut relever la bête.
Non, c'est la même chose, mais c'est le même concept.
Bah
oui.
Je sais pas.
C'est le même concept. Dans un, c'est l'animal qui croule sous sa charge, il faut l'aider. Il faut l'aider à se relever. Et dans l'autre, c'est l'animal qui est tombé. Il est tombé. Il a trébuché, il est tombé. C'est très lourd à porter. On peut pas le porter tout seul. C'est quoi, c'est plus lourd qu'une moto.
Mais même comment, déjà comment relever un animal, ça paraît impossible.
C'est à cause de la charge, elle a glissé.
Non, dans le deuxième cas, il n'y a pas de charge.
Mais comment on peut relever un animal?
Il faut être à plusieurs.
200-300 kilos.
Il faut être à plusieurs.
Non, dans le deuxième cas aussi, il y a la charge.
La moto à 60 kilos, là, pour la monter, déjà, comment je...
Une grosse moto, ça pèse 300 kilos.
Non, la petite, là.
Ah. Comment ça pèse une grosse moto?
Pour 60 kilos.
Une grosse, c'est pour 400 kilos.
Ouais, 300-400 kilos, ça pèse très lourd.
Elle est couchée par terre.
Ouais, c'est...
Il paraît que dans les accidents, il y a des fois des motards du préserve qui peuvent se couper une jambe ou un truc comme ça du préserve. C'est juste à cause du poids de la moto. À 400 kilos, à cette vitesse, bon. Enfin.
Non, à cette vitesse, je sais pas.
Ah oui, si roule vite, ouais, si, il saute de la moto.
Je sais pas, c'est quand il roule doucement, c'est un choix.
Sauf si ses bretelles, elles restent accrochées.
Non, mais le problème, c'est que la moto, les gens la reçoivent, hein. La force cinétique.
Ah oui. Ouais, bon, alors donc la Gemara pose la question suivante. On n'est pas dans les motos maintenant, mais la Gemara pose la question suivante. Elle dit, pourquoi tu as besoin de m'enseigner Prika et pourquoi tu as besoin de m'enseigner Teina? A priori, les deux cas qu'on vient de dire, d'accord? Prika, c'est quoi la différence entre Prika et Teina? Prika, ça veut dire aider l'âne à se relever quand il a une charge. Et Teina, ça veut dire aider l'âne à se lever tout court. Donc, a priori, c'est la même chose.
Ouais.
Pourquoi j'ai besoin de deux versets? Donc, c'est la question de la Gemara. Là, Mali le Mirsav Prika, et là, Mali le Mirsav Teina. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre deux versets? Un verset pour me dire que tu l'aides à se relever quand il croule sous sa charge, un autre verset pour me dire que tu l'aides à se relever quand il est tombé. La même chose. Et la Gemara répond à la chose suivante. Elle dit, on a besoin de deux versets. Pourquoi? I katavrachamana Prika, si la Torah avait écrit seulement le verset qui parle de Prika, ça veut dire seulement le verset. Si la Torah avait écrit seulement le verset qui nous dit qu'il faut aider l'animal à se... Si la Torah m'avait amené seulement le verset qui nous dit qu'il faut aider l'animal à se relever quand il croule sous sa charge. Qu'est-ce que j'aurais pu penser? Ah bah Mina, j'aurais pu penser...
Il n'y a pas de charge.
Mishum. Pourquoi la Torah m'a donné l'obligation de le faire? Mishum deika tsar ba'alechaim. Puisque ici, on a deux facteurs. Premièrement, il y a la souffrance de l'animal. La souffrance, il souffre. Pourquoi l'animal, il souffre? Parce que l'animal... Il croule, premièrement, il croule par terre, ça c'est vrai, mais deuxièmement, c'est quoi le problème qu'il a, M. Bismuth?
Il y a une
fila
au travail du...
Je sais pas. C'est quoi le problème? C'est ce qu'on appelle ici Tsar Ba'alechaim. Tsar Ba'alechaim, c'est quoi, M. Daniel?
Répétez.
Tsar Ba'alechaim.
Ça, c'est le...
La cam qui tue.
Ça, l'Echaïm, ça veut dire comme ça. On a ici deux problèmes. J'aurais pu penser que pourquoi dans le premier cas je dois aider l'animal? C'est quoi le premier cas, M. Bismuth? Premier cas, c'est quoi?
La marchandise.
C'est un animal qui croule sous sa marchandise. J'aurais pu penser que pourquoi dans ce cas-là je dois l'aider, et pour deux raisons. Premièrement, parce que l'animal est en train de souffrir. Il est croulé par terre, et il a une charge sur lui. Imaginez-vous, vous êtes par terre, vous avez une charge sur votre dos, ça fait très mal. C'est premièrement. Deuxièmement, d'accord, Veikar et Srankis. Il y a aussi une perte d'argent. Quelle perte d'argent? Qu'est-ce qu'il perd comme argent ici, monsieur Daniel? En quoi il y a une perte d'argent quand l'animal est par terre? On va essayer de s'imaginer ensemble, regardez. Imaginez-vous un âne, d'accord, qui est en train de marcher, avec 200 kilos sur lui.
Et c'est des grains.
200 kilos.
C'est des sacs de grains.
D'accord, 200 kilos sur lui. L'âne, maintenant, il s'écroule, il est par terre. Moi, je marche, une situation, j'ai un âne, je vois un âne par terre. Bon. Premier problème qu'il y a, on a dit, c'est que l'animal, il souffre. Parce qu'il n'est pas sur ses pieds, donc il est par terre, il a une charge sur lui, ça lui fait très mal. On est d'accord?
Il est écrasé.
C'est le cas de le dire. Deuxième problème, qu'est-ce que nous dit la Gemara? C'est qu'il y a une perte d'argent. En quoi il y a une perte d'argent ici? Quel argent est en train de se perdre ici?
Et la marchandise, elle souffre. Et l'animal, il va vivre moins longtemps,
alors,
il sera moins performant.
On parle pas de la marchandise.
Pourquoi elle souffre, la marchandise?
La marchandise, elle souffre pas.
Si elle peut.
Ah non.
Si c'est des choses fragiles.
Bon, là on parle pas de ça, elle a pas de raison de souffrir.
Elle est mouillée par terre et que c'est du grain.
Mais les sacs, ils sont pas tombés par terre, les sacs, c'est sur l'animal encore. Il a raison. C'est pour ça que les commentaires, ils disent qu'ici, a priori, on parle pas de la marchandise. La marchandise, elle souffre pas, elle est bien, la marchandise. Le seul problème, c'est quoi? C'est l'animal. Quand tu laisses un animal, tu laisses un animal comme ça écrasé, c'est comme une voiture, les amortisseurs, ils prennent un coup. Donc j'aurais pu penser que pourquoi dans le premier cas que je dois aider, pourquoi que... Non, dis pas ça. Non, tout simplement parce que quand il y a une charge sur lui, ça lui fait mal, ça va l'abîmer. L'animal, il va prendre un coup, il va tomber malade. Donc j'aurais pu penser que pourquoi dans le premier cas je dois aider l'animal à se relever, et pour deux raisons. Parce que dans le premier cas, bien que c'est mon ennemi, mais il y a deux problèmes ici. Premier problème, c'est qu'il y a une perte d'argent. Pardon, que l'animal il souffre. Deuxième problème, qu'il y a une perte d'argent. Quelle perte d'argent, on a dit ? Perte d'argent de ? Quelle perte d'argent ? Allez.
Pour la marchandise ?
Pour la marchandise ? Non, on n'a dit pas la marchandise.
Ah ouais,
l'animal,
pour l'animal.
Il devient d'occasion, vite fait.
Donc j'aurais pu penser que c'est pour ça que j'ai l'obligation de l'aider. Ah, Val, mais... Teina. Mais dans le deuxième cas, le deuxième pasouk. D'accord ? Dans le deuxième pasouk. Qu'il y a un animal qui est tombé par terre. L'animal est tombé, il est par terre, l'animal. Il est par terre, maintenant. Alors, « Delav tsab alechaimika, velor esrankis ika. » Là, dans ce cas-là, d'abord, il y a une perte d'argent. Il n'y a pas de perte d'argent, l'animal il est par terre, ben, il y a plein d'animaux qui sont par terre. C'est pas la fin.
Il s'assoit.
D'accord. Il s'assoit, il n'y a pas de problème. Si, tant qu'il n'a pas de charge sur lui, ben, ça ne va pas l'abîmer. C'est premièrement. Et est-ce qu'il y a ici une souffrance ? Non, c'est pas forcément qu'il souffre, il est allongé, c'est tout. Il ne souffre pas. Pourquoi il souffrait dans le premier cas ? Parce qu'il y avait une charge sur lui, il était écrasé. Là, il souffre pas. Donc, si la Torah m'avait dit que le premier cas dans lequel l'animal est écrasé par une charge, j'aurais pu penser que pourquoi je dois aider l'animal à se relever dans ce cas-là, hein, même si c'est mon ennemi. Parce que j'ai deux problèmes. Premièrement, l'animal il souffre. Deuxièmement, d'accord, l'animal il va se dévaloriser parce qu'il va prendre un coup. Dans le deuxième cas qui n'y a pas ces deux facteurs-là, j'aurais pu penser qu'il ne faut pas l'aider. C'est pour ça que la Torah m'a amené le deuxième cas. Le deuxième cas qui me parle de l'animal qui est par terre sans qu'il y ait une charge sur lui. Maintenant, dans ce cas-là, on n'avait qu'à amener que le deuxième cas et pas le premier. On n'aurait pas amené le premier cas. Oui ?
Le deuxième inclut le premier.
Le deuxième inclut le premier. Alors il dit comme ça. Il dit « I, Hashmeinan Teina, Kalva Chomer, exactement. I, Hashmeinan Teina, si on avait appris seulement le cas de Teina, c'est-à-dire seulement le deuxième cas. » C'est quoi le deuxième cas ? Le deuxième cas qui me dit que quand il y a un animal qui est tombé par terre, il faut l'aider à se relever, il n'a pas de charge. Là encore, j'aurais trouvé une porte de sortie. Je t'aurais dit que c'est que le deuxième cas et pas le premier cas. Pourquoi ? Et ma... J'aurais pu penser, Michoum, Zebesachar. J'aurais pu penser que pourquoi j'ai l'obligation de l'aider à se relever. Puisqu'il y a un autre principe que la Gemara a dit. Que dans ce cas-là, j'ai le droit de demander une aide pour mes services. J'ai le droit de demander une rémunération pour mes services. Par exemple, je vois quelqu'un dans la route. Quand quelqu'un dans la route, il est bloqué avec sa voiture. Donc, d'après vous, ça s'apparente à quel cas ça ? Au premier ou au deuxième cas ? Est-ce que ça s'apparente à un animal qui croule sous sa charge ou à un animal qui est tombé par terre ?
Deuxième.
Hein, monsieur Daniel ?
Il est en panne ?
Il est en panne.
C'est pas un camion,
c'est une bagnole. Si, il est en panne, il est en panne, il est sur dans le côté de la route.
Dans le deuxième.
Mais ben, on va analyser, on va analyser.
Oui, parce que dans le cas du...
Dans le premier cas, il croule sous sa charge.
Dans le cas de l'âne, il n'est pas...
Là, il n'a pas de charge ici, la voiture n'a pas de charge, la voiture elle est simplement en panne. Ouais. Très bien. Alors, il y a un principe qui dit comme ça. Il dit que dans ce cas-là, je dois l'aider. Si c'est un juif, je dois l'aider. Il faut m'arrêter pour l'aider. À part, bon, ça comme on verra après, à part si je veux perdre de l'argent à cause de ça, d'accord, par exemple, que à cause de ça, je veux perdre mon travail, etc., donc je peux pas. Mais si j'ai le temps, je dois m'arrêter pour l'aider. Mais, j'ai le droit de demander une rémunération pour ce que je fais. Je suis pas obligé, mais j'ai le droit. D'accord ? Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre le premier cas et le deuxième cas. C'est que dans le premier cas, même si c'est mon ennemi, si je vois un animal qui est en train de crouler sous sa charge, il faut l'aider, sans demander d'argent. Mais dans le deuxième cas, quand l'animal ne croule pas sous sa charge, que bon, il est par terre, c'est tout. Et ça peut attendre, il peut rester comme ça quelques heures, il n'y a rien qui va se passer. Dans ce cas-là, je dois l'aider, mais je dois demander une rémunération. Alors, si la Torah m'avait dit que le deuxième cas, que le cas qui me dit que si l'animal il tombe par terre, je dois l'aider à se relever. J'aurais pu penser que pourquoi dans ce cas-là la Torah me force à le relever, parce qu'elle me dit, même si tu vas te galérer, mais au final tu pourras demander de l'argent. Mais dans le premier cas, quand l'animal il croûte sa charge, que là tu n'as pas le droit de demander de l'argent, j'aurais pu penser que là, dans ce cas-là, j'ai aucune obligation de le faire, puisqu'il n'y a pas d'argent derrière. C'est pour ça que la Torah m'a enseigné les deux cas. Ça veut dire comme ça, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est vraiment une logique gemara ça. Ça veut dire que chacun des deux cas a son chidouche. Chacun des deux cas a sa nouveauté. Le premier cas, le cas qui a dit que chacun des deux cas a sa nouveauté. Le premier cas, le cas qui a dit que j'ai l'obligation d'aider un animal qui croule sous sa charge à se relever. Ce premier cas, c'est quoi le chidouche de ce cas-là ? C'est quoi la nouveauté de ce cas-là ? La nouveauté de ce cas-là, c'est pour s'apprendre que pourquoi je dois l'aider à se relever ? Parce que premièrement, l'animal...
Il souffre.
Deuxièmement,
perte d'argent
de l'animal. Très bien. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, le cas qui parle de l'obligation d'aider un animal à se relever, même s'il n'a pas de charge, là c'est quoi le chidouche? Le chidouche pour te dire que là, dans ce cas-là, tu as le droit de demander de l'argent. Donc avec ça, la Gemara nous a montré comment ces deux cas distincts, ces deux cas qui ne sont pas du tout dans la même longueur d'onde, parce qu'il y a des facteurs complètement différents. Dans le deuxième cas,
on n'aurait pas compris le premier cas.
Parce que dans le premier cas, les facteurs particuliers qu'il y a, c'est que premièrement, l'animal il souffre, deuxièmement, l'animal il risque de se détériorer. Mmh. Et dans le deuxième cas, les facteurs particuliers qu'il y a, d'accord, c'est que j'ai le droit de demander de l'argent. Donc puisque c'est deux cas complètement différents, la Torah est obligée de me le citer séparément et un n'aurait pas pu apprendre sur l'autre. Oui.
Il y a une notion ici où il parle de chargement de l'animal et de déchargement de l'animal.
Oui.
On l'a pas abordé là.
Non, je suis pas rentré dedans.
Et pourtant, c'est là tout le temps. Hein.
Parce que la Gemara va parler de ça après. Je suis pas rentré dedans encore. Je sais. Ils en parlent dans les notes déjà ici.
Oui. Bah oui, justement, on est en plein dessus.
La Gemara va en parler après. Bon.
On parle du chargement et du déchargement et ce sont des cas précis qui interfèrent carrément.
Oui. Je vous expliquais. C'est très simple. Parce que quand l'animal il est par terre, avec une charge dessus.
Il faut le décharger.
C'est pour ça qu'on appelle ça déchargement. Alors que quand l'animal est par terre, sans charge. C'est-à-dire comme ça, il y a deux mitzvahs différentes. Lorsque l'animal est par terre avec sa charge, la mitzvah, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est pas d'aider l'animal à se relever. La mitzvah, dans ce cas-là, c'est quoi, monsieur Bismuth? J'ai un animal qui est par terre avec 200 tonnes de marchandises dessus. 200 kilos de marchandises.
D'accord.
C'est quoi la mitzvah?
La mitzvah, c'est de le relever, mais s'il est chargé, je vais d'enlever la charge.
Attention, il y a deux mitzvahs ici. Il y a deux mitzvahs distinctes.
Il faut le soulager.
D'abord, il faut enlever toute la marchandise. Ça c'est une première, donc ça s'appelle le déchargement. Et deuxièmement, il faut l'aider à se relever.
Attendez.
Il faut l'aider à se relever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur quelle partie du job j'ai le droit de demander une rémunération?
Intéressant.
Sur le rechargement.
Sur le rechargement. Non, pas sur le rechargement. Sur quand je l'aide à se lever, se relever.
Ah.
Mais sur le fait que l'animal. Sur le fait que j'ai déchargé l'animal, qu'il y avait une charge sur l'animal et je l'ai enlevé, sur ça j'ai pas le droit de demander rémunération. Parce que l'animal il souffre et l'animal est en train de se détériorer. Et là on discute pas, on enlève tout de suite.
Et recharger?
D'accord. Recharger, non, j'ai pas obligé. Donc dans recharger, j'inclus aider l'animal donc à reposer la charge dessus, ou bien aider l'animal à se relever. Ça je dois le faire, mais je peux demander de l'argent. Vous voyez? C'est pour ça déchargement, chargement. Déchargement, c'est pour quand l'animal est par terre, il faut le décharger pour qu'il arrête de souffrir et qu'il arrête de se détériorer. Et chargement, c'est aider l'animal à se relever et même peut-être remettre sa charge dessus.
Et si son propriétaire, il peut le faire, recharger son...
Ah, s'il peut le faire tout seul. Là, on te dit qu'il faut l'aider à le faire. Ça veut dire qu'il est là, mais il n'arrête pas à le faire tout seul, c'est très lourd.
À l'aider parce qu'il ne peut pas le faire.
Ah oui, il ne peut pas le faire tout seul.
S'il peut le faire, on n'a pas l'obligation
non.
De...
Non, tu n'as pas l'obligation d'aider. J'ai l'obligation de l'aider seulement si c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Par exemple, voilà, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple d'une voiture. Une voiture qui est bloquée, il faut la pousser. D'accord? Alors, on avait donné néanmoins le principe, parce que c'est intéressant puisqu'on parle de la voiture. Là, c'est considéré comme une perte. Et on avait donné le principe que lorsque... On avait donné le principe suivant, donc dans les cours précédents, que si c'est pas de mon cavod, par exemple, moi, même ma voiture, j'aurais pas poussé. J'aurais appelé un dépanneur pour ça. Hein, et je vois quelqu'un à côté, il a une voiture de je sais pas quelle année, et il me demande de l'aider à la pousser. Je dis, écoutez, pour moi, je l'aurais pas fait. Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider?
Non.
Alors, si c'est pas les filles que vous dites, si c'est pas mon cavote, j'ai pas l'obligation de l'aider. C'est important à savoir, ça. Ah oui, des fois, peut-être un gars, il a une... Bon, le gars, ça fait trois fois que ça arrive avec sa voiture, et toujours, il me demande de l'aider. Écoutez, monsieur, moi, ma voiture, j'aurais pas poussé, moi. Laissez-moi tranquille.
J'ai un souffle au cœur.
Et quoi?
Je suis malade, je peux pas pousser.
Vous voyez que c'est pas fachoute, c'est pas simple. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de l'aider.
On peut l'encourager moralement.
Okay.
Allez, vas-y, pousse, mon ami, pousse.
Rabbi Shimon, maintenant la Gemara pose la question, elle dit, ou le Rabbi Shimon d'Amar, selon Rabbi Shimon qui a dit, Af te inabichina. Selon Rabbi Shimon qui a dit que même le chargement, on doit le faire gratuitement. Ah, là c'est une question. Jusqu'à présent, on est parti selon la vie qui a dit que pour aider l'animal à se relever, j'ai le droit de demander une rémunération. Et voilà, il y a un avis qui s'appelle Rabbi Shimon, et qui a dit que même le chargement doit être fait gratuitement. J'ai pas le droit de demander de l'argent. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on fait d'après Rabbi Shimon? Quelle particularité il y a dans le deuxième cas qu'il n'y a pas dans le premier? Jusqu'à présent, on m'explique que la particularité qu'il y avait dans le deuxième cas, c'est quoi? C'est que j'ai le droit de demander une rémunération.
Ouais.
Mais après Rabbi Shimon qui a dit qu'on ne peut pas demander de rémunération, jamais. Alors c'est quoi la particularité qu'il y a dans le deuxième cas?
Ouais.
Alors il dit, le Rabbi Shimon, l'homme saïm écrève. D'accord? D'après Rabbi Shimon, l'homme saïm écrève, ça veut dire quoi? D'accord? Ça veut dire que... comment il dit ici? Oui. D'accord. Rabbi Shimon nous dit la chose suivante. Je suis curieux de savoir comment il traduit ça. Le message écrit. Enfin, littéralement, ça veut dire que les versets ne se concluent pas. Enfin, je sais pas comment il traduit ça en français ici.
Ils sont permutables.
Permutables, très bien. Ça veut dire qu'il dit comme ça. Rabbi Shimon, il va utiliser une technique qu'on utilise très rarement dans la Gemara. Permutable, il dit ça?
Non. Il dit d'après Rabbi Shimon.
Non, mais je veux savoir la traduction.
Ah,
je
sais. Non, il dit seulement c'est ambigu.
Le sens, je le connais, mais je veux savoir que c'est dire le sens écrit. Non, mais là, qu'est-ce qu'il dit? Ne sont pas concluants. Ah, c'est bien, voilà. Concluants. Très bien. Très bonne traduction. Vous avez ici, là?
Ouais.
Ça veut dire comme ça. Rabbi Shimon, il te dit, tu as raison. D'accord? Il va utiliser une technique qu'on utilise rarement, mais c'est une technique qui est très logique. Je suis ici, là. Ouais. On est là. C'est quoi mon problème ici? C'est que j'ai deux versets. Et selon Rabbi Shimon, a priori, il y a un des versets qui est en trop. On est d'accord? Mais Rabbi Shimon te dit, moi j'ai un autre problème. C'est quoi le problème que j'ai? C'est que, puisque les deux versets viennent dire la même chose, donc je ne pourrai jamais savoir lequel est le premier et lequel est le deuxième. C'est-à-dire lequel est en trop. Puisque vous savez qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. On est d'accord? Monsieur Daniel, vous suivez?
Les versets, c'est divin.
Très bien.
Regardez
la réponse de Rabbi Shimon.
Comment on peut dire rien?
D'accord. Regardez la réponse de Rabbi Shimon.
J'ai pas compris.
D'accord. La réponse de Rabbi Shimon, c'est que, il te répond une réponse très simple, c'est une réponse qui est très logique. Il dit que les versets en soi, quand tu lis le verset, tu ne peux pas savoir si le verset il parle de chargement ou de déchargement. C'est seulement quand j'ai deux versets, dans lequel dans un tu m'as parlé clairement de chargement, s'il vous plaît, et dans le deuxième tu m'as parlé de déchargement. Vous pouvez parler à la base, ça ne vous dérange pas. D'accord? Et dans le deuxième tu m'as parlé de déchargement, c'est pour ça que je sais que c'est deux versets différents. Mais si tu m'avais pas amené deux versets distincts, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Si tu m'as amené qu'un verset, peu importe lequel tu m'avais amené, le premier ou le deuxième, chacun des deux versets, j'aurais pu penser que ce verset, il parle seulement de l'obligation du déchargement et pas du chargement. Pourquoi? Puisque les versets sont ambigus. Les versets sont pas clairs, sont imprécis. Mais puisqu'ils sont ambigus, c'est une technique que Rabbi Shimon utilise, il te dit comme ça. Il te dit que comment je peux savoir que j'ai l'obligation de faire les deux? C'est parce que la Torah m'a dit deux versets. Et que de là, j'ai compris que s'il y a deux versets, certainement, un, il parle du chargement, l'autre, il parle du déchargement.
Mais on sait pas exactement lequel.
Mais on sait pas lequel. Ça veut dire que si tu m'avais dit qu'un seul verset, ben j'aurais dit certainement qu'il parle du déchargement.
Et le chargement.
Ou du chargement. On n'aurait pas su. On aurait été bloqué. D'accord? Alors peut-être qu'on aurait dit qu'il parle que du déchargement. Et donc si tu m'avais dit que le déchargement, j'aurais pas pu apprendre le chargement. Comme on l'a expliqué. C'est pour ça qu'on était obligé de donner les deux versets. Vous suivez ce que Rabbi Shimon a dit? Je répète?
Je vais bien
maintenant. Rabbi Shimon nous dit la chose suivante. Il nous dit les deux versets ici, ils sont imprécis, ils sont pas clairs. C'est-à-dire c'est pas écrit explicitement qu'il faut décharger, le mot charger et le mot décharger. C'est pas écrit ça. On te parle d'une situation, on te dit quand il y a un âne, il faut l'aider à se relever. Bon, et on n'est pas rentré dans les détails. Par exemple, au premier cas, on te dit, il faut l'aider. Quand tu as un âne qui est par terre, il faut l'aider. L'aider à quoi? L'aider à décharger, l'aider à recharger, l'aider à quoi? Tu sais pas écrit. Nous, on a compris que puisqu'il y a deux versets, donc certainement qu'un verset, il parle du déchargement, et l'autre verset, il parle du chargement. Mais s'il y avait un seul verset, toi, nous, ce qu'on te pose la question, on dit, pourquoi tu m'amènes deux versets? Un seul verset suffisait? D'accord? Je te réponds, c'est très simple. La réponse de la Gemara est très simple. Rabbi Shimon te dit, si tu m'avais amené un seul verset, j'aurais pu penser que je ne sais pas de quoi il parle les versets. Le verset, il peut parler du déchargement, comme il peut parler du chargement. Donc peut-être j'aurais dit que ce verset, que si tu m'avais amené un seul verset, j'aurais dit que le verset de quoi il parle du déchargement. Et donc jamais j'aurais appris que j'ai l'obligation de faire le chargement. J'aurais dit, pourquoi j'ai l'obligation de le décharger? Parce que l'animal, il souffre, parce que l'animal, il va se détériorer. Mais charger l'animal, j'ai pas d'obligation. Vous comprenez ce que veut dire Rabbi Shimon? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verset qui parle explicitement du déchargement et aucun verset qui parle explicitement du chargement. Donc puisqu'il n'y a aucun verset qui parle explicitement d'aucun des deux, donc si tu m'avais amené un seul verset, ben j'aurais dit, ben je ne sais pas de quoi il parle. Maintenant qu'il y a deux versets, c'est là que je comprends que s'il y a deux versets, c'est-à-dire qu'un il parle du chargement, et l'autre il parle du déchargement. On est d'accord? Bon. Maintenant la Gemara, bon, vous reverrez dans la Chazara, je crois qu'il y a des notes dans la page d'avant, là-bas. Des notes très intéressantes. À mon avis, d'avoir des notes, parce que c'est... C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de mefarchim. Non, la Gemara pose la question suivante. Si a priori, pose une question suivante. Mais a priori, c'est quoi le concept ici que tu m'as appris ?
Avec un seul verset, on aurait pu aussi penser que c'est dans le cas de charger ou de décharger.
Oui, mais on n'aurait pas su de quoi ça parle.
Si c'est chargé ou
décharger. Si c'est chargé ou déchargé. On ne sait pas de quoi ça parle.
Mais les deux même aussi.
Non.
Il y a trois solutions. Soit on apprend à charger, soit on apprend à décharger, ou soit on apprend à charger et décharger. Il y a trois hypothèses.
J'ai compris. Mais quand on a trois hypothèses, on prend toujours l'hypothèse où dans laquelle il y a le moins de chidouche.
Moins de ?
De chidouche, de nouveauté.
Ouais.
Et l'hypothèse dans laquelle il y a le moins de chidouche, bah c'est l'hypothèse qu'on parle du cas de déchargement. Parce que là, c'est logique que la Torah va demander d'aider à décharger, puisque l'animal souffre, d'accord ? Et puisque l'animal va se détériorer. Mais dans les autres cas, on peut penser que non. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on était obligé d'amener les deux psouki. Mais la Gemara va poser une question plus forte que ça. La Gemara va poser une question très forte. Elle va dire, a priori, c'est quoi le concept que tu es en train de parler ici ? Le concept que tu me dis, c'est que quand j'ai un animal qui est en train de souffrir, il faut l'aider à se relever. Bon, tu m'as dit, il faut l'aider à se relever, il faut l'aider à charger. Bon, d'accord, disons. Mais ça, est-ce que ça rentre pas dans la catégorie ? Est-ce que ça rentre pas dans le cadre d'une perte ? Hein, monsieur Bisquet ? Est-ce que ça rentre pas dans le cadre d'une perte ? C'est une perte, a priori, puisqu'on parle toujours d'une perte. Et on a déjà inversé pour la perte. La
oui,
Torah m'a déjà dit.
C'est pas une perte dans le sens égaré. C'est une perte financière.
Ah, perte financière, oui, mais on a déjà appris, vous n'étiez pas là, je crois. On avait déjà appris que perte financière, c'est considéré aussi comme une perte d'argent. Par exemple, on avait appris... on a appris le principe suivant. Si, par exemple, quelqu'un, je vois qu'il est en train de se planter dans les affaires, et je lui donne un conseil, j'ai fait la mise de Shabbat Aveda. Je lui ai rendu une perte. Bien qu'il n'a pas perdu d'argent encore. Je l'ai évité de perdre d'argent, donc j'ai fait une mitzvah.
Attends, c'est invivable.
Alors ?
Oui, mais on dit bien que les conseillers sont pas les meilleurs.
Non, mais attendez, vous avez compris la question que Gabriel va poser ? On va dire, mais attends, finalement, aider un âne à se relever, bah,
ça veut dire... ne pas faire souffrir son propriétaire.
Ça veut dire, voilà.
Le propriétaire, il souffre.
Ah, très bien, bonne question.
Mais oui.
Donc ça veut dire qu'on va devoir expliquer quelle différence il y a entre aider l'animal à se relever, d'accord ? Et... rendre une perte, a priori c'est la même chose, c'est le même concept. Donc encore une fois, monsieur Daniel, si c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a un verset en trop ici. Donc si on aurait même deux versets en trop.
Mais pourquoi on l'a mis carrément
sur le verset là ? Il y a un verset pour le chargement, un verset pour le déchargement et un verset pour la trouvaille. Il faut rendre quelque chose, rendre une trouvaille, rendre une perte. Oui. A priori, avec le verset de la trouvaille, on aurait compris les deux autres. C'est évident. Si je dis qu'il faut rendre une trouvaille, bah, si je vois un animal par terre, bah, il n'y a pas d'argent, donc il faut lui rendre. Pourquoi j'avais besoin de deux versets distincts pour ça ? Un verset par le chargement, un verset par le déchargement.
Parce qu'il y a un tsar.
D'accord ?
Mais un tsar physique.
Alors attendez, on va voir. Moi, vous avez vu la suite. Donc Marie répond.
Il y a un tsar physique, c'est pas dur. Maintenant, je dis pas si c'est celui de l'animal ou celui de propriétaire.
Vous avez pas vu la suite ? Un petit peu quand même.
Non, j'ai commencé.
Ah d'accord.
Attends.
Quelle patience.
Alors, il dit comme ça. Dis...
Non, j'ai pas encore lu la suite.
Peut-être vos yeux l'ont vu et vous l'avez pas vu alors. L'Agmara répond, elle dit comme ça, elle dit Tsrich, j'ai besoin de tous ces versets-là, donc de ces trois versets. I katavrachamana, alors accrochez-vous, hein, parce que là c'est la vraie Gmara là. Enfin, jusqu'à présent c'est un peu. Bon, c'est l'entraînement, là c'est. On va aller dans tous les sens. I katavrachamana anetart, et que si la Torah avait écrit seulement ces deux versets-là, hein, ça veut dire les deux versets qui parlent de l'obligation de charger et de décharger. Qu'est-ce que j'aurais pu penser ? J'aurais pu penser que pourquoi la Torah m'a obligé dans ce cas-là d'aider à charger et à décharger ? Mishum, de tzara de maraïta. Puisque tout d'abord, le propriétaire y souffre. Pourquoi le propriétaire y souffre, monsieur Daniel ?
Le propriétaire y souffre.
Pourquoi il souffre ?
Parce que sa bête, elle souffre.
Pourquoi il souffre ?
Il est en train de se ruiner là ! Ça je connais.
Il perd de l'argent.
Il perd de l'argent, son animal il est par terre, même s'il perd. Même s'il perd pas l'air. Ouais. Disons, même s'il perd pas d'argent. Ouais. Il est en train de souffrir parce que son animal il est par terre, il faut bien qu'il le relève. Donc j'aurais pu penser que si la Torah m'avait dit que ces deux cas, la Torah m'avait dit uniquement les cas de chargement et déchargement, et que la Torah n'avait pas parlé du tout du cas de la trouvaille. J'aurais pu penser que dans ces deux cas-là, j'ai l'obligation d'aider le propriétaire. Pourquoi ? Puisque il y a une souffrance et de l'objet perdu et du propriétaire. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que l'objet qui est perdu, ben, il est en train de souffrir, donc l'animal, et le propriétaire aussi en train de souffrir. Avalaveda, mais la perte des tsara de maraïta, que là effectivement dans une perte. après, il a perdu son portefeuille. D'accord ? Imaginez que quelqu'un a perdu son portefeuille. Là, à ce moment-là, est-ce que le propriétaire, il souffre ?
Je pense.
Je suis pas sûr. D'accord ? Mais est-ce que le portefeuille,
il
souffre ?
Peut-être qu'il est très attaché à
son... D'accord ? Est-ce que le propriétaire, est-ce que le portefeuille, il souffre ? Pas du tout. Donc là, il m'avait tsarat idée l'état. Et que là, la souffrance de l'objet perdu, il n'y en a pas. Emma, l'eau, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le rendre. Donc voilà pourquoi on devait parler du cas de la trouvaille. Parce que le cas de la trouvaille ne pouvait pas être déduit du cas du chargement et du déchargement. Puisque dans le chargement et le déchargement, il y a un facteur particulier que et le propriétaire il souffre et l'animal souffre. Alors que dans la trouvaille, il n'y a que le propriétaire qui souffre. Si la Torah m'avait écrit maintenant uniquement le cas de Aveda, le cas de la trouvaille, j'aurais pu penser Mishum de Leita Lemara Bade. Là aussi il y a un autre facteur particulier. C'est quoi le facteur particulier qu'il y a? Allez, fermez, ne regardez pas la Gemara. Levez les yeux. Quel facteur particulier il y a dans une trouvaille par rapport à charger et à décharger une bête? Donc on va répéter les cas. Charger et décharger une bête, c'est-à-dire j'ai un animal qui est par terre, avec une charge dessus. Donc premièrement, sans aucune rémunération, je dois décharger les paquets de l'animal. Parce que l'animal est en train de souffrir, il est en train de se détériorer. Deuxièmement, je dois aider l'animal à se relever, mais ça je peux demander une rémunération. Ça c'est première catégorie. Deuxième catégorie, c'est la trouvaille. Je trouve un portefeuille, je dois le ramener à son propriétaire. On est d'accord? Alors qu'est-ce que te dit la Gemara? La Gemara pose la question, a priori c'est le même concept. Il y a une perte d'argent et je dois la rendre. Je dis non. Si tu m'avais dit uniquement le cas de chargement et déchargement, que dans ce cas-là, il faut aider le propriétaire. Qu'est-ce que j'en avais pensé? Et pourquoi dans ce cas-là, je dois aider le propriétaire? Parce que et l'animal, il souffre, et le propriétaire, il souffre. On est d'accord? Alors que, dans le cas de la trouvaille, le propriétaire, il souffre, mais l'animal, mais le portefeuille, est-ce qu'il souffre?
Non.
Très bien. Donc c'est pour ça qu'on a dû t'enseigner le cas de la trouvaille. Maintenant, je vous dis le contraire. Je dis, t'avais quand même mentionné dans ce cas-là le cas de la trouvaille, et pas le cas du chargement et du déchargement. Et j'aurais dit, si déjà dans la trouvaille, qu'il n'y a pas de souffrance de l'objet perdu, je dois aider le propriétaire, à plus forte raison que dans le cas du chargement et du déchargement où il y a une souffrance pour le propriétaire et une souffrance pour l'animal, par exemple, je dois aider. On te dit non. Il y a un autre facteur. C'est quoi l'autre facteur qu'il y a ici? L'autre facteur qu'il y a ici, alors on va essayer de réfléchir ensemble, parce que je ne vous pas regarder la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une trouvaille qu'il n'y a pas dans un animal? Donc rappelez-vous les deux cas que je vous ai dit. Premier cas, je vois le propriétaire à côté de son animal, par terre, il est perdu, il ne sait pas quoi faire.
La trouvaille, c'est un inconnu.
D'accord. Alors, dans le cas de la trouvaille, j'ai trouvé un portefeuille. Quelle est la différence entre les deux cas?
Faire différer le portefeuille.
Non, quelle est la différence? Non, c'est vraiment différent. Non.
Bah, ça veut dire qu'on ne connaît pas le propriétaire, on ne connaît rien encore. Alors que l'autre, c'est devant nous,
si, dans le portefeuille, il y a le nom du propriétaire.
Ah, dans le cas où il y a le nom.
Il y a le nom.
Parce qu'il peut y avoir un objet...
Non, il y a le nom.
La trouvaille, c'est un...
Mais il y a un zman. Il faut que tu fasses tout de suite dans le cas
C'est encore plus simple que ça.
C'est un objet, c'est matériel.
Un deux, c'est un objet. L'animal aussi, c'est un objet.
La compassion.
Ça considère rien.
Tout de suite...
Réfléchissez, c'est très simple. Je répète le cas. Vous allez voir, ça va vous sauter aux yeux. Premier cas, on a dit c'est quoi? Chargement, déchargement. Imaginez-vous. D'accord. J'ai un âne.
Un effort à faire.
Non, attendez. Je répète. Premier cas, imaginez-vous, j'ai un âne. D'accord. L'âne, il tombe par terre. Avec sa charge. Oui? L'âne, il tombe par terre avec sa charge. Vous passez à côté. On vous demande de m'aider. D'accord. On vous demande de m'aider à charger l'animal. C'est un premier cas. Deuxième cas. J'ai perdu un portefeuille. Donc le portefeuille aux Champs-Élysées. Vous trouvez le portefeuille. Oui? Avec mon nom. Et vous allez me le ramener. Quelle différence entre les deux cas? Une seule différence qui saute aux yeux.
Alors, hein? Moi, ce que je vois comme différence, que là, il se fait par le biais du hasard. Parce que quand on marche, on tombe dessus.
Oui.
Et l'autre, il y a un travail effectué quand on a trouvé.
L'autre aussi?
De ramener...
Oui, d'accord, mais dans les deux, c'est un hasard. Une trouvaille, c'est un hasard. J'ai pas
cherché. Non, mais après, je dois me trouver le propriétaire.
Cherche autre chose. Pour lui ramener. C'est encore plus simple que ça. Très simple, c'est ça. J'ai les yeux.
J'ai déjà dit que tu as rejeté ce que tu dis, parce que c'est pas grave d'autre.
La trouvaille.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la trouvaille? Regardez la différence. Dans le cas de la trouvaille, je trouve un portefeuille. Qui est à côté du portefeuille?
Il n'est pas là, propriétaire.
Ah.
On
sent. Regardez la différence. Dans le cas du portefeuille, il n'est pas là, le propriétaire. C'est-à-dire quoi, il n'est pas là? Ça veut dire que il n'est pas là, il n'y a personne. Mais dans le cas de chargement et du déchargement, le propriétaire est là. C'est vrai qu'il va galérer. C'est vrai que bon, il va devoir appeler une dépanneuse, un truc, etc. Mais il est là. Il gère. Il gère la situation. Donc c'est pas du tout la même chose. Vous voyez la différence? C'est ça ce qu'elle répond la Gemara. La Gemara a dit que ce qu'il y a de particulier dans le cas de la trouvaille, pourquoi la Torah a besoin de m'enseigner le cas de la trouvaille, alors qu'on a déjà enseigné le cas du chargement et du déchargement? C'est parce que si la Torah m'avait enseigné que le cas de la trouvaille, j'aurais pu penser que pourquoi la trouvaille je dois la rendre? Puisque le propriétaire n'est pas là. Et il n'a pas de chance de retrouver son objet. Alors que dans le cas du chargement et du déchargement, si je m'en vais...
Il peut ne pas être là. Hein.
D'accord? Non. Mais d'accord, mais il y a un employé à lui, il y a quelqu'un.
Mais si là, il s'est perdu...
Non, dans ce cas-là, c'est une trouvaille. Là, c'est une trouvaille. D'accord? Mais là, dans le cas de chargement et du déchargement, c'est vrai qu'il est en train de perdre de l'argent, mais le propriétaire est là. Donc, il gère. Il va retrouver son bien. Il va le retrouver. C'est pas comme dans le cas du portefeuille. Donc, je répète, on a une spécificité.
Mais s'il veut pas de l'aide.
Je répète.
Attends,
on a une spécificité dans chacun des deux cas. D'un côté, on a chargement, déchargement d'un animal. D'un autre côté, on a trouvaille. Quelle spécificité on a trouvé, monsieur Daniel, dans le cas du chargement et du déchargement? C'est au niveau de la souffrance.
La souffrance,
que
des deux.
Du propriétaire et du
et de l'animal. Ouais. Très bien. Ça, c'est la spécificité du chargement et du déchargement. Ouais. Maintenant, quelle spécificité on a trouvé dans le cas de la perte?
C'est que le propriétaire n'est pas,
là. Donc vous voyez, comme c'est deux cas différents, deux cas complètement différents, qu'un n'aurait pas pu prendre sur l'autre, parce que c'est deux cas complètement différents.
Il ne souffre peut-être même pas, le propriétaire, parce qu'il ne sait peut-être même pas qu'il a perdu.
Oui, exactement. Il n'y a peut-être même pas de souffrance. D'accord? Mais le plus fort ici, c'est que le propriétaire n'est pas là, donc il ne gère pas la situation. Quand il est là, il gère, même s'il a des difficultés, mais il va gérer, il va finir par appeler une dépanneuse, par payer quelqu'un, il va se débrouiller. Mais quand il n'est pas là, quand il a perdu, c'est perdu. Donc, en vérité, même si c'est deux cas qui nous ont l'air similaires, que dans les deux cas, on perd de l'argent, mais c'est deux cas que chacun a sa spécificité. Dans le cas de la trouvaille, la spécificité, c'est quoi? C'est que, dans le cas de la trouvaille, la spécificité, c'est que le propriétaire n'est pas là. Et dans le cas du chargement et du déchargement, la spécificité, c'est que c'est et l'animal et le propriétaire qui sont en train de souffrir. D'accord? Donc, dans les mots de la Gemara. I Hashmeinan la Veda, si la Torah m'avait enseigné seulement à Veda, seulement la trouvaille, j'aurais pu penser Mishum de Leita le Marabada. C'est parce que le maître n'est pas avec lui. Aval Anetar, mais dans les deux cas de chargement et du déchargement, Deita le Marabada, que son maître est avec lui. Alors comme on a dit, même s'il n'est pas avec lui, mais au moins son employé il est là. Et Malo, j'aurais pu penser que non, dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'aider. Parce que tout je dis, écoute, c'est pas comme une trouvaille. De toutes les façons, il est là, donc il va finir par se débrouiller. Tricha, c'est pour ça que la Torah vient de m'enseigner et le cas d'une trouvaille, et le cas du chargement et du déchargement. Vous avez compris? Oui? Très bien. Là, la Gemara continue. La Gemara continue dans le même style, donc pareil.
Et c'est vrai que si on analyse chaque cas, tous les cas sont toujours différents.
Voilà.
Parce qu'il y a toujours une nuance.
Oui.
Qui fait qu'un cas ne ressemble pas à l'autre.
Oui, non, mais attention. C'est les mêmes qui sont composés, mais attention. Il faut que la nuance fasse que d'un cas, on ne va pas pu apprendre sur l'autre.
Non, mais quand il y a une nuance, c'est jamais pareil.
Non, attention. Il faut que la nuance soit assez distincte. Par exemple, d'accord? Imaginez-vous, je vous dis quelque chose sur un verre de café.
Mais nuance, c'est pas l'identique.
Imaginez-vous qu'il y a deux verres. C'est un verre sur un verre de café, un verre sur un verre de coca. Je dis, mais c'est la même chose. C'est un verre avec un liquide dedans. Donc, on va devoir expliquer qu'il y a une nuance dans chacun des deux cas.
Puisque c'est du coca et du café.
D'accord? On va devoir expliquer qu'il y a une nuance dans chacun des deux cas. Et que, si tu m'avais dit qu'un des deux, j'aurais pas pu apprendre le deuxième. Puisque c'est des caractéristiques différentes.
C'est ça la nuance.
Oui. Des fois, on peut avoir une nuance, par exemple, une couleur différente. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est rien. Ils sont différents, il y a une nuance, mais c'est pas une nuance qui est contraignante.
Ils se rejoignent.
D'accord? Là, on va te montrer qu'en vérité, c'est des nuances complètement différentes.
Ils se rejoignent pas.
Pas du tout, ils se rejoignent pas du tout, ils peuvent pas se rejoindre. Parce que c'est des cas complètement différents, c'est pas du tout la même chose. Alors, puisque la Gemara parlait de ça, donc je vous ai dit que cette page, enfin, donc la page d'avant et cette page-là, la page 31, on parle beaucoup des répétitions dans la Torah. C'est-à-dire des mots qui sont répétés en double dans la Torah.
Donc, oui, puisque, c'est le cas d'ailleurs.
D'accord. Puisque Beth Amidrash, ils étaient dans le coup, donc du coup, ils sont mis à passer en revue toute la Torah et... Enfin, pas toute la Torah, mais ils sont mis à passer en revue beaucoup de cas dans la Torah dans lesquels il y a des mots qui ont été écrits en double. Donc on a eu jusqu'à présent plusieurs cas. On a eu rendre, tu rendras, renvoyer, tu renverras la mère pour prendre les enfants. On a eu relever, tu l'aideras à se relever. Aider, tu l'aideras à décharger.
Ouvrir sa main.
D'accord. Bon.
On a eu un petit cas.
Ouais. Alors on va voir là beaucoup de cas. Ah maintenant, l'Agmara va donner un autre cas. Mot Shumat. D'accord. Mourir, il mourra.
Ah.
Ouais. Ah, oui. Alors.
J'ai pas ça moi ici, hein.
Il est mort déjà.
Mot Shumat.
Ah oui, mais j'ai pas moi.
Mot Shumat.
Bien sûr, c'est la page, on est à la page 31B1. Hein. 31B1.
B1.
31.
B1, c'est la page suivante.
On est.
C'est là, là-bas, on est là. Alors, la Gemara dit comme ça, Mot Shumat.
Ah ouais, c'était le plus long, oui.
La Gemara dit comme ça, Mot Shumat. Alors, qu'est-ce qu'il dit le verset? Alors, pour lire le verset, on va passer dans le côté Gemara. D'accord? On va passer dans le côté Gemara.
Ouais.
Torah Or Hachalem, les versets avec les Nekoudot ici, là. Et là. Ouais. Gemara dit comme ça. Donc, la passion qui dit comme ça. C'est un verset dans Bamidbar. Il dit, O Be'evai Kao Biado, si une personne a frappé quelqu'un, ou bien par accident, d'accord? D'accord? Ou bien, on sait qu'il le haïssait, mais bon, Ikao, il a frappé. Vayamot, d'accord? Et il a frappé quelqu'un avec. Donc il a frappé quelqu'un et cette personne est morte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mot Shumat Amake. Mourir devra mourir. Enfin, mise à mort devrait être mis. D'accord? Amake, celui qui a frappé. Pourquoi? Rotser ou, c'est un tueur, c'est un assassin. Goel Adam, Yami de Tarotzer, Befik Obo. Le vengeur du sang, c'est-à-dire donc la famille, il pourra tuer, mettre à mort l'assassin, Befik Obo, dès qu'il le rencontre. Donc c'est pour ça que c'est dans la paracha qui nous parle des villes de
refuge.
Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset tout de suite, sous nos yeux? Mot Shumat Amake. D'accord? Mise à mort devrait être mise le tueur, l'assassin. Pourquoi deux fois? D'accord? Donc on repasse côté Gemara. On repasse dans le français. Donc on dit comme ça. Mot Shumat Amake Rotsear ou. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que donc Mot Shumat Amake et que celui qui a frappé devrait être mis à mort. Pourquoi tu me répètes deux fois? Pourquoi tu me dis mise à mort devrait être mis? Enfin c'est évident. Du moins il sera mis à mort, c'est tout. Dis, j'aurais pu penser, et la bémita actuvabo. J'aurais pu penser que la seule manière de le mettre à mort, c'est dans la mort qui a été écrite sur lui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Gemara dans Sanhedrin, elle apprend par des versets qu'il peut être mis à mort que par l'épée. Vous me suivez?
C'est-à-dire qu'on n'a pas d'épée sous la main, on peut pas
voilà,
le tuer.
Voilà, pas d'épée sous la main, tu peux pas le tuer. Donc, j'aurais pu penser que tu peux que c'est-à-dire par défaut, il faut le tuer avec une épée. J'aurais pu penser que tu ne peux le tuer seulement dans la mort qui a été dite par défaut. Ça veut dire la mort par l'épée. Donc d'où je sais maintenant, d'où je sais que si je ne peux pas le tuer, que si le vengeur du sang ne peut pas le tuer dans la mort qui est écrite par défaut, ça veut dire la mort par l'épée. D'où je sais que tu as le droit de le tuer dans toute mort que tu veux, ça veut dire par exemple il peut l'étrangler, il peut faire ce qu'il veut. Talmud Lomar, c'est pour ça que la personne nous apprend en mot Shumat. Mise à mort, il devrait être mis. Pourquoi on répète deux fois le mot mettre à mort? Bon, te dire que par défaut, je sais que je t'ai appris que par défaut, il faut le mettre à mort par l'épée. Mais si t'as pas d'épée, il devrait être mis à mort de toutes les façons. C'est pour ça que je répète deux fois le mot mettre à mort. Pour dire que le vengeur du sang, s'il a pas d'épée dans la main, il peut tuer avec ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un assassin. On est d'accord?
Et pourquoi on déduit que si,
On répète deux fois?
Non, on pourrait penser que il est pas tué par l'épée, Parce que ça pourrait ne pas être considéré comme...
Parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle apprend que la mort par défaut, d'accord? Dans ce cas-là, c'est la mort par l'épée. Elle nous dit qu'il faut tuer par l'épée. C'est-à-dire que normalement, le vengeur du sang, il doit tuer avec une épée. S'il n'a pas d'épée, j'aurais pu penser que s'il n'y a pas d'épée, ben tu peux pas tuer. C'est pour ça qu'on te dit non. Si la Torah te dit qu'il faut le tuer par l'épée, c'est parce que par défaut, il faut le tuer par l'épée. Mais si tu n'as pas d'épée, la Torah te dit mettre à mort, il devrait être mis. Pourquoi je répète deux fois le mot mettre? Pour te dire que en vérité, par défaut, il faut utiliser l'épée, mais tu peux utiliser toutes les méthodes sont cachées. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a fait.
Parce qu'il y a des cas où
c'est un petit peu la différence entre dans la halakha, on aura appelé ça aujourd'hui un lechatrila et bediavad. On dit lechatrila, il doit le tuer avec une épée, et bediavad, il peut le tuer avec tout ce qu'il trouve.
Oui.
C'est ça un vrai lechatrila bediavad.
C'est-à-dire parce que dans les autres cas, quand on dit pendaison, c'est pendaison. C'est pendaison. On peut pas
autre chose. C'est pas. Si la Torah dit qu'il faut le pendre, il faut le pendre. S'il n'y a pas de, de corde, il n'y a pas de corde.
Cas, c'est marqué dans ce cas-là.
La Torah dit qu'il faut le séparer l'épée, mais s'il n'y a pas d'épée, ben, les autres méthodes sont que ce soit aussi cachées. Ok, on continue après la Gemara.
Dans le cas de la pendaison, il n'y a pas écrit pendu, il sera pendu.
Oui, ça la différence.
Écrit, il sera pendu, point.
Et là, ça s'applique à l'épée, là ? Parce que c'est marqué l'épée.
C'est oui, c'est écrit, vous verrez dans les notes, c'est la Gemara Sanhedrin.
Oui.
La Gemara Sanhedrin dit clairement qu'il faut prendre l'épée. Alors, je continue encore quelques
minutes. C'est quoi, c'est la décapitation ou on lui plonge une épée dans le ventre ?
Il coupe la tête.
Ah oui, c'est décapitation. Sympa.
J'aime pas le mot décapité.
Ça veut dire enlever la tête.
Oui. Ah oui, l'épée, c'est pas dans le cœur. Hein, c'est il coupe la tête.
Dans le cœur, ça presse son effet aussi. Hein.
Alors, à chaque fois, par exemple, ils l'ont tué, ils l'ont passé.
Il faut une épée japonaise. Il faut une épée japonaise. Comment on appelle les épées japonaises ?
Samouraï.
Samouraï ?
Non, ça c'est le porteur de l'épée. J'ai oublié le nom. C'est un sabre en tous les cas.
C'est un sabre. J'ai entendu que c'est des sabres qui sont... Samouraï, ouais. C'est des sabres qui coupent... Enfin, qui
ah ouais, c'est coupent. Un shrita, c'est très bien.
Enfin, ouais. Alors, qu'est-ce que vous disiez ?
Ben, je sais plus. Oui, ça veut dire l'épée. Ça veut dire Bilam, quand il y a marqué, ils l'ont passé par l'épée. Ça veut dire qu'ils l'ont décapité ?
Ouais, ils l'ont décapité, bien sûr.
Bon. Posez des questions.
Donc on dit comme ça. On avance encore quelques lignes et après on va s'arrêter. Je recherche où ça reste dans la Gemara. Ouais, allez, bon, on va faire quelques lignes encore.
J'ai quand même deux questions.
Oh, mais non, on finit d'abord. Parce que comme ça, on finira. Parce qu'après, la semaine prochaine, on passera à notre sujet. On a dit comme ça. C'est écrit... C'est écrit aussi dans le Passouk, d'accord ? Ake take. C'est un verset qui parle à propos de, des habitants de la ville, d'accord ? De la ville déchue. Donc, Irani Zahat. D'accord ? C'est quoi la ville déchue ? C'est une ville qui est que toute la ville, enfin, où la grande majorité de la ville a fait Avodazara. On les a prévenus, ils n'ont pas voulu arrêter, etc.
Pas, jamais...
D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que dans ce cas-là, la Torah te dit, si ça arrive, tu devras frapper toute la ville. Frapper, tu devras frapper. Donc, encore une fois, en double. Frapper, tu devras frapper. Pourquoi on double ? Alors il dit comme ça, il dit Enli Ela Beakak Tuva Bahen. J'aurais pu penser que je ne peux les frapper seulement par la mort par défaut. Et la mort par défaut dans ce cas-là, c'est quoi aussi ?
Encore l'épée.
C'est encore l'épée. Minai, d'où je sais, chez Imayata Yacholamitan Bakak Tuva Bahen, d'où je sais que si tu ne peux pas les frapper dans la mort qui est écrite dans eux, ça veut dire, monsieur Daniel, si je ne peux pas les frapper avec
l'épée.
Je peux les frapper avec tout ce que je trouve, avec un pistolet.
Est-ce que c'est répété deux fois ?
On dit, Talmud Lomar, c'est ce que le verset vient d'apprendre. Il te dit, ake take, frapper, tu les frapperas, pour dire que par défaut, les khatrila, il faut les frapper avec une épée, mais si t'as pas d'épée, tu peux frapper avec ce que tu veux.
C'est kif-kif avec le cas précédent.
C'est pas kif-kif, c'est deux cas différents. C'est pas la même chose. Hein. Il parle d'un assassin, l'autre il parle de l'idolâtrie.
C'est une boucherie totale, hein. D'accord. La vie, quelle horreur.
Mais c'est le...
les têtes coupées.
C'est le même style, j'ai compris ce que vous voulez dire. C'est le même style.
Elle n'a pas posé la question à Guémara.
Quoi ?
On aurait pu déduire d'un cas que...
Non, la Torah ne s'est pas répétée.
Hein ?
La Torah ne s'est pas répétée ici.
La frapper, tu frapperas, elle se répète.
Non. La Torah, quand elle dit frapper, tu frapperas, c'est pour te dire que... C'est parce que c'est deux cas différents. Là-bas, on parlait d'un assassin, et ici, on parle de l'idolâtrie. C'est deux cas différents.
Mais les deux sont coupables de... Sont coupables de mort.
Oui, mais genre...
Mais c'est grâce à ça qu'on peut les tuer avec n'importe quoi.
Très bien. Un idolâtre. Mais on aurait trouvé de différence entre un assassin et un idolâtre. Parce qu'un assassin, ici, on parle d'un assassin qui a tué sans faire exprès. D'accord ?
Alors qu'un exprès, normalement, on le tue même pas. Hein.
Oui, on tue pas, mais le vengeur du sang peut le tuer.
Ouais. Qu'il le sache.
D'accord, qu'il le sache. Alors que bon, l'idolâtrie, on les a prévenus et tout, ils ont fauté. Dans chacun des cas, il y a des spécificités. Là, vraiment, c'est deux cas différents. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est l'idolâtrie, l'autre, c'est un assassin. C'est pas la même chose.
On peut pas apprendre.
D'accord ? Alors, dans les mots, la Gemara. La Gemara, elle dit, c'est écrit Achève Tachiv. Achève Tachiv, de quoi on parle ? On parle de. On parle si on a pris un gage à quelqu'un. Imaginez-vous quelqu'un qui m'a prêté de l'argent. Non, pardon. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Et il m'a donné une date. Et le jour où je viens pour chercher l'argent, il n'a pas de quoi payer. Donc dans ce cas-là, je prends quelque chose en gage. Le problème, c'est quoi, hein ? C'est que c'est quelqu'un qui est pauvre et que le gage que je vais lui prendre, c'est sa couverture.
C'est son outil de travail.
D'accord ? Ou bien son outil de travail, ou sa perceuse, ou sa voiture. Son outil de travail. Ah, il devrait apprendre ça, les Français. Sa voiture. La voiture, c'est pas ton outil de travail. Ah, en France, on prend une hypothèque, voiture. Même si c'est un outil de travail.
Ah oui, on le gâche.
Bien sûr, on le gâche. Enfin, on n'a pas peur. Donc, qu'est-ce que te dit la Torah? La Torah te dit, tu peux le prendre en gage, mais à condition, d'accord, de lui rendre chaque fois qu'il en a besoin. Par exemple, la voiture, tu la prends la nuit, mais tu le rends le matin. La couverture, tu lui prends la journée, mais tu le rends le soir. D'accord? Donc, il dort pas la journée.
Oui.
Et qu'est-ce que dit le verset là-bas? Le verset te dit, achève, t'achive. Rende, tu devras lui rendre. Donc là-bas, c'est la couverture, lorsque le soleil se couche. Alors, du coup, je sais pas si les gens le prenaient, quoi, hein, parce que bon, imaginez-vous un huissier qui doit venir tous les matins et tous les soirs. Achève, t'achive. Donc, rend, tu devras lui rendre. Pareil, c'est en double. Pourquoi tu me répètes, rend, tu devras lui rendre? Dis-moi, rendre tout court. C'est pour te dire comme ça. Je n'aurais pu penser, et là seulement, chez Mishken, au Birchut Badin. J'aurais pu penser que dans quel cas j'ai l'obligation de lui rendre le gage. J'ai l'obligation dans quel cas j'ai l'obligation de lui rendre le gage. C'est si le gage a été fait dans le cadre d'un tribunal. Que là on te dit, puisque c'était fait dans le cadre d'un tribunal, d'accord, le Beddin a envoyé quelqu'un. Donc là je dis, puisque le Beddin a des gens qui sont préposés pour ça, des huissiers, donc bah dans leur budget, on va mettre un huissier pour l'amener le matin, un budget pour l'amener le soir. Mais j'aurais pu penser que Mishkeno chez le Berchut Beddin, que si c'est un cas dans lequel j'ai pris un gage sans passer par le Beddin. Moi j'ai pas d'huissier. Moi si je dois venir tous les matins et tous les soirs pour le ramener, c'est un temps fou, c'est un zman que je perds. C'est comme M. Daniel.
C'est pour le décourager de prendre le gage.
Dans ce cas-là, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, je dis non. Si la Torah avait dit seulement une fois le terme rendre, si la Torah avait dit tu devras rendre la couverture le soir. J'aurais pensé oui, la Torah a parlé de quel cas? La Torah a parlé d'un cas où c'est passé par un tribunal. Et que là, le tribunal a des huissiers qui sont payés pour ça, donc l'huissier va passer, il va faire la tournée dans la ville, il va rendre à chacun sa couverture et son truc, est-ce que tu veux. D'accord? Mais si c'est moi, si c'est un objet perso, que on n'est pas passé par un tribunal. Parce que bon, on n'a jamais passé par un tribunal, c'est toujours perso. Peut-être que je pensais que dans ce cas-là, la Torah ne m'aurait pas imposé de faire un aller-retour tous les jours. Deux allers-retours tous les jours. C'est pour ça que la Torah te dit doublement. Achève ta chive, rende, tu devras lui rendre. Pour te dire que dans tous les cas, il faut lui rendre. Peu importe si on est passé par un bad din, ou peu importe si on a fait justice entre nous. D'accord? Très bien. Ensuite, Gmara, on s'arrête qui là? On s'arrête ici?
Prends-moi une question dans la paracha, non?
Ouais, attendez, moi, dans la paracha, c'est après.
Non, mais parce qu'il y a une répétition.
Parce qu'il y a encore jusqu'à. J'arrête, il y a encore jusqu'à la page. Ouais, il y a encore,
Là, on est à l'erreur déjà.
Bon, on s'arrête ici. On s'arrête ici, on continuera la semaine prochaine.
Tu veux qu'on s'arrête?
S'arrêter à la page 31B1. Ici, hein. S'arrêter à...